ont jeté par terre leurs menottes, leurs brassards, en appelant à la démission le ministre de l'Intérieur, Christopher Castaner. En Angleterre, le Premier ministre Boris Johnson a fustigé les extrémistes qui ont pris en otage ce...
I have a dream.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, liberty and justice for all.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, c'est l'Amérique et vous qui commence. Eric Manilakiza avec vous ce soir. Lionel Lulanila Garima assure la mise en œuvre. De Miami à Seattle, en passant par New York ou Los Angeles, des foules battent le pavé depuis qu'un policier blanc a asphyxié le 25 mai à Minneapolis George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans. Ce n'est pas la première fois que le pays s'enflamme après la mort d'un homme noir aux mains de la police, mais les manifestations n'avaient jamais eu une telle ampleur depuis le mouvement de lutte pour les droits civiques dans les années 1960. Et surtout, pour la première fois depuis des années, les cortèges comptent beaucoup d'Américains blancs. Plus concrètement, plusieurs villes ont annoncé de premières réformes de leurs services de police. Au niveau national, les élus démocrates du Congrès ont déposé un texte de loi qui s'attaque, entre autres, à la large immunité dont jouissent les policiers. Ces réformes sont-elles suffisantes? L'Amérique et vous se focalisent ce soir sur les réformes nécessaires en vue de juguler les violences policières et le racisme aux États-Unis. Nous en parlons avec nos invités. L'Amérique et vous, de ce soir, accueille Joël Vitiello. Vous êtes universitaire et bien avisé sur les questions raciales aux États-Unis. Bonsoir.
Bonsoir, merci. Oui, je vous parle de Minneapolis, Saint-Paul. Exactement.
Merci d'être avec nous. Ismaël Diallo, du Pays des Hommes Intègres. Bonsoir.
Bonsoir.
Je signale que vous vous trouvez à Atlanta.
En ce moment, oui.
Merci d'être là. Oui. René Leck, analyste politique, vous êtes dans le Maryland. Bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Bienvenue à tous et merci de votre disponibilité. Les manifestations massives qui secouent les États-Unis ont commencé à Minneapolis. Joël, est-ce que ces manifestations sont-elles le glas du racisme et des violences policières?
Bon, c'est une grande question. Disons qu'il y a, il y a eu un énorme mouvement de solidarité. La question importante aujourd'hui, c'est la durabilité de ce mouvement antiraciste. Est-ce que les mesures qui vont être prises à tous les niveaux institutionnels, au niveau éducatif, au niveau policier, au niveau administratif, au niveau financier, tout ce qui est racisme institutionnel devrait être réexaminé. Et donc, la grande question, c'est comment est-ce que tout cela va être implémenté dans la mesure où on a une grande carence de leadership national.
Monsieur Diallo?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Joël que c'est une question de durabilité. Si le mouvement faiblit, ben les choses resteront en l'état. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de réformer la police, c'est tout le système qui est fondé sur le substrat du racisme et de la hiérarchisation de ce qu'ils appellent ici les races. Alors c'est une véritable révolution, c'est un renversement de table qu'il faut. Et ça ne se fera pas seulement à cause du décès de George Floyd, je dis seulement, parce que je parle d'un et lui-même. Il y a tout ce grand mouvement parce qu'il y a eu 8 minutes 46 secondes de film que tout le monde a vu. Et s'il n'y avait pas eu ce témoignage audiovisuel, ben, rien ne se serait passé.
Et René Leck, est-ce que vous notez, par exemple, des avancées quelconques?
Oui, écoutez, la première avancée, c'est déjà la réaction, le fait que les populations, les Noirs d'abord, avec ce qu'on appelle de plus en plus leurs alliés, que ce soit les Latinos, les Native Americans, et donc les Indiens américains, les Blancs, beaucoup de Blancs, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, se retrouvent dans la rue, donc manifestent, protestent. Donc je pense que ça déjà c'est une C'est une indication d'un changement notoire. L'alliance multiraciale.
Là, vous touchez les mentalités, n'est-ce pas ?
Comment ?
Là, vous touchez les mentalités.
Oui, je touche les... Non, le simple fait que, au-delà des mentalités, même de l'action, le simple fait de se retrouver dans la rue, de se mettre là à manifester de manière aussi forte, de se faire entendre de manière aussi pressante, je crois que ça, c'est de l'action, ça, c'est très concret. La preuve, cette action-là a déjà créé un certain nombre de changements qui apparaissent. Dans le domaine, par exemple, du sport, et c'est toujours très important de parler du sport parce que la culture sportive est souvent l'un des relais les plus évidents de la culture ambiante. Quand la NFL, donc la National Football League, donc le football américain, la grande ligue de football américain, extrêmement puissante ici aux États-Unis, annonce que fait son mea culpa par rapport à son attitude, par rapport aux différentes manifestations, oppositions, notamment de quelqu'un comme Colin Kaepernick, dans le cadre de plusieurs, dans plusieurs matchs qu'il y a eu pour protester contre les violences policières. Le fait que la NFL fasse un tel mea culpa, c'est énorme d'un point de vue de l'impact que ça peut avoir. Même chose pour NASCAR. NASCAR, c'est une ligue de courses très populaire ici aux États-Unis, notamment dans le monde rural, qui ont décidé de ne plus avoir le drapeau de la Confédération, qui est des pays, des États du Sud racistes qui voulaient maintenir l'esclavage dans ce pays. Donc, les changements commencent, l'impact se fait, et je passe sur ce que vous indiquiez tout à l'heure, les réformes au niveau des polices qui sont en train d'y travailler.
Oui, justement, Houston a interdit l'usage des prises d'étranglement. Washington va exclure les syndicats des procédures disciplinaires engagées contre ses agents. New York veut rendre leur passif accessible au public. Monsieur Diallo, est-ce que ces mesures sont-elles suffisantes ? Vous êtes un habitué des réformes, des lois pour améliorer les droits de l'homme.
Elles sont loin d'être suffisantes et c'est un frémissement de changement. Mais on est encore loin du compte. Comme on dit au Burkina, c'est bien mais ce n'est pas arrivé. Bien heureux que vaste mouvement de remise en cause, c'est extraordinaire, c'est une véritable révolution des esprits de voir tous ces jeunes blancs, effectivement, et surtout des jeunes filles qui sont dans ces mouvements de protestation. C'est quelque chose d'inédit aux États-Unis, c'est extraordinaire. Même si ça n'a pas encore l'ampleur de la manifestation organisée, de la marche organisée par Martin Luther King à Washington en 68. Ben, toujours est-il que c'est très bon. Mais encore une fois, tout dépendra de la persistance, de la permanence de ce mouvement. C'est la seule chose qui fera changer les choses. Et aux élections prochaines, si le président sortant est battu, si la majorité des représentants et des sénateurs républicains qui sont contre les réformes sont battus, alors là, le mouvement pourra en vérité engranger de bons résultats. Je terminerai simplement en disant que pour moi, le meilleur candidat à la présidentielle de ce pays depuis une trentaine d'années, c'est Bernie Sanders, qui lui veut renverser la table. Et voilà pourquoi toute race entre guillemets confondue, tout parti politique et tendance confondue, personne ne veut vraiment de lui, parce que les gens préfèrent le statu quo avec quelques petits aménagements.
Joël ?
Oui, je partage tout à fait l'avis du dernier intervenant en ce qui concerne Bernie Sanders, en ce qui concerne la fragilité du mouvement selon le résultat des élections. Je voudrais dire aussi qu'à Minneapolis, donc le conseil municipal de Minneapolis, le 8 juin, a voté à une super majorité de démanteler complètement le département de police de Minneapolis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va demander beaucoup de travail pour le reformuler sur la base de police avec beaucoup moins de budget, de police communautaire. Donc, on ne sait pas encore tout à fait la forme que ça va prendre, mais ça, c'est un des premiers changements radicaux, peut-être, dans la démilitarisation de la police, qui est une grande question qui s'est glissée subrepticement au fil des années dans l'appareil policier, au point que la militarisation se retourne contre les citoyens plutôt que de soutenir une paix civile. Donc, J'ai aussi, je voudrais juste ajouter aussi que ce qu'a dit le dernier intervenant sur la jeunesse, c'est aussi très important. Parce que je pense que depuis l'événement qui s'était produit en Floride, où il y avait eu un mitraillage de masse, une tuerie de masse dans une école, où les lycéens ont montré qu'ils pouvaient être activistes et essayer de changer les choses. Depuis qu'on a vu l'engagement des jeunes dans le combat contre le réchauffement climatique, moi je pense qu'il y a effectivement un moment d'espoir où la jeunesse arc-en-ciel va peut-être continuer, être capable de porter ce combat dans la durabilité. C'est à voir, mais c'est quand même un moment d'espoir.
René Lec, il existe aux États-Unis près de 18 000 entités policières autonomes, c'est-à-dire police municipale, shérif des comtés, patrouille des États, qui ont leurs propres règles de recrutement, de formation, de pratiques autorisées. Peut-on avoir des normes fédérales?
Oui, écoutez, la question est en débat en ce moment, ne serait-ce qu'en parlant d'une agence qui coordonnerait un certain nombre non seulement de règles, mais également de banques de données. Parce que l'un des gros problèmes, comme vous savez, c'est qu'un policier peut avoir une réprimande ou même être sanctionné dans un département, voire même être licencié, et le lendemain, le surlendemain, il trouve un emploi dans le comté d'à côté. Donc ce type de pratique, ce type de situation-là, il faudrait y mettre un terme. Et il y a tout un débat qui est en cours en ce moment, un débat mais sérieux, avec notamment le NYPD, la police de New York, qui est le plus gros département de police aux États-Unis. Donc je crois que de ce point de vue-là, on peut espérer des changements notoires. Parce que pour donner quelques indications à vos auditeurs, et Joël pourra confirmer ça, elle qui est à Minneapolis, il y a une population, on dit à Minneapolis, à peu près de 19% de Noirs, et bien 58% des incidents avec utilisation de force avec la police sont les Noirs en sont les victimes. Donc c'est totalement disproportionné. Et on peut trouver des tas d'autres chiffres, des tas d'autres exemples de ce type-là dans le reste des États-Unis. Ça n'a rien à voir, bien entendu, avec Minneapolis exclusivement. Deux fois et demi plus de Noirs sont tués par la police ici aux États-Unis. Selon une étude que j'ai lue il y a quelques jours du LA Times, en termes de traffic stop, donc d'arrêt dans le cadre de la circulation, 24% ce sont des Noirs, 16% des Latinos et 5% des Blancs. Donc il y a une telle disproportionnalité qu'on se rend compte que le racisme est effectivement systémique, il est même culturel, il y a même une culture mafieuse dans la police, et apparemment je crois qu'on va être dans un changement qualitatif important dans les semaines, les mois, les années qui viennent.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Vous écoutez l'Amérique et vous, les réformes sur les questions raciales et les violences policières au cœur de cette discussion avec trois invités. Eric Banelakiza, toujours en votre compagnie. Alors, les profondes divisions entre élus démocrates et républicains laissent peu de chance à l'émergence d'un texte consensuel. Tout en dénonçant un crime horrible, le parti du président Donald Trump y voit l'œuvre d'une pomme pourrie et refuse une profonde remise à plat des services de police. Que faudrait-il faire de plus, Joël?
Grande question, mais je pense que la réponse est relativement simple. Il faut poursuivre la pression sur la démilitarisation de la police, sur un changement au niveau de toutes les institutions, mais au niveau de la police, disons au niveau national, d'empêcher de telles violences policières. Il faut éduquer à tous les niveaux, aussi bien au sein des institutions policières que au sein de toutes les communautés civiles, de toutes les institutions, de faire une éducation. Parce que Il y a l'aspect policier qu'il faut absolument réformer, parce que ce n'est pas seulement le nombre de personnes tuées, mais c'est aussi le nombre de personnes qui se retrouvent incarcérées de façon tout à fait disproportionnée. Il va falloir par contre combattre le racisme lui-même, le racisme culturel qui est ancré quand même, qui est en fait un des socles de fondateurs de la nation états-unienne. Donc il va, pour démanteler ce racisme, il va falloir dépasser des actes purement symboliques pour changer les mentalités à une large échelle. Et ça va passer par l'éducation, par la réforme des institutions à tous les niveaux dans la société civile.
Rodelec, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un texte consensuel avant les élections de novembre ?
Avant les élections de novembre, je ne sais pas. Au niveau national, je ne sais pas. Ça va être difficile. Comme vos auditeurs le savent, le Congrès est contrôlé par les démocrates, le Sénat est contrôlé par les républicains. J'ai vu il y a quelques jours les propositions, en fait, la base de discussion actuelle au sein des républicains, des sénateurs républicains, ils sont quand même très loin de ce que proposent de manière beaucoup plus radicale, j'allais dire, les démocrates. Je ne sais pas si on pourra avoir un consensus avant les élections, mais je pense qu'après les élections, s'il y a un changement de majorité, notamment au niveau du Sénat, on peut espérer effectivement des changements qualitatifs importants. Je crois qu'il va y avoir des changements notoires. Est-ce qu'ils iront assez loin? Pour l'instant, j'en doute, à moins qu'il n'y ait un changement de majorité.
Monsieur Diallo, oui, est-ce que vous pensez que les deux partis qui contrôlent l'administration américaine peuvent finalement aboutir à un consensus?
On ne peut pas ne pas être perplexe, voire même ahuri, de constater que dans la classe politique, les Américains sont d'abord républicains avant d'être américains, et peut-être également pour les démocrates. C'est terrible, le fossé, la muraille qu'il y a entre les deux formations. C'est extraordinaire. Et cela n'est pas pour le bien du pays en vérité. On dit que la démocratie est le système le moins mauvais, mais est-ce qu'elle existe? Qu'est-ce que la démocratie aujourd'hui, depuis qu'elle a été hijacked, piraté par l'argent et par la démagogie? Sinon, quelqu'un comme Trump ne pourrait pas être président des États-Unis. Bon, bref, c'est un détour. Encore une fois, comme tous les trois nous le disions, il faudrait vraiment que le mouvement soit pérenne, qu'il continue et avec la même vigueur. S'il ralentit, le statu quo restera. Parce que le système ne demande que cela, que le mouvement faiblisse pour que les choses restent en l'état. Et le très puissant syndicat de la police freinera des cas de fer pour qu'il n'y ait pas de sanctions, pour qu'il n'y ait pas de changement. Mais en vérité, bon, tout le monde sait que la police des États-Unis est une des polices les plus brutales au monde. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais elle l'est. Et moi, noir, quand je viens aux États-Unis et quand je sors, je fais très attention à moi et je souhaite retourner chez moi sain et sauf. Et ça, c'est une réalité, hélas. C'est comme ça. Parce que l'officier de police sait que face à un noir, il a toujours raison et qu'il n'a pas de sanction.
Joël ?
Je suis tout à fait d'accord avec le dernier intervenant. Et Eric, je n'ai pas tout à fait répondu à votre question sur les deux parties. Personnellement, je suis pessimiste sur un accord consensuel qui aboutirait à des réformes radicales, certainement avant les élections. Après, la grande question, c'est aurons-nous des élections?
10 bases de l'armée de terre, toutes situées dans le sud du pays, portent le nom d'anciens militaires sudistes. Et le président Donald Trump s'est dit catégoriquement opposé à l'idée de rebaptiser ces bases militaires, y voyant un manque de respect pour les soldats. Est-ce que c'est une belle occasion qu'il manque pour marquer les points contre le racisme? Rodelec ?
Écoutez, Eric, je ne m'attendais pas personnellement à une autre réaction de Donald Trump. Sur cette question-là, il est très cohérent. Il ne faut pas oublier que Donald Trump est rentré en politique sur la base d'un discours raciste contre le président Obama. Il ne faut pas oublier que même quand il était un businessman à New York, avant même d'être en politique, il était décrié justement par ses pratiques ségrégationnistes, racistes vis-à-vis des Noirs, dans les possibilités qu'il pouvait avoir ou ne pas avoir à accéder à certaines de ses propriétés et même à loger dans certains des appartements dont il était propriétaire, y compris depuis l'époque de son père. Donc l'histoire, le lien de Donald Trump avec le racisme et l'exclusion est une vieille histoire. Et de ce point de vue-là, il est tout à fait cohérent, ça ne change pas.
Oui, Joël, est-ce que vous êtes de cet avis ou il est très sévère contre le président ?
Et la question de renommer des bases militaires, la question de faire tomber des statues, de remplacer des statues, ça, ce sont des marqueurs symboliques. Donc, il faut effectivement repenser quel message civique on envoie avec tous ces noms. Depuis quelques années, on débaptise et on abat des statues. Je pense qu'il faut aussi faire un grand accompagnement historique, c'est-à-dire qu'on ne perde pas la mémoire du racisme américain à travers l'histoire non plus. L'histoire, elle est toujours en marche. Donc, je pense qu'il faut changer tout ça, ne pas renforcer cet héritage raciste aujourd'hui.
Mais Obama, il a fait 8 ans, il n'a pas changé ça.
Il y a eu quand même des changements en Louisiane, il me semble. Il y a eu des renversements de statuts, il y a eu des actions qui ont été locales. À Minneapolis, on a remplacé le nom de Calhoun par un nom amérindien. Donc, il y a, même sur mon campus, il y a des noms de bâtiments comme Neil Hall qui vont être remplacés par des noms amérindiens, puisqu'on est sur un territoire amérindien. Donc, il y a eu quelques changements, mais certainement, ça n'a pas été au niveau fédéral. Oui.
Et Eric, si vous permettez, ce n'est pas propre aux républicains ou à Donald Trump. Il y a une culture générale dans le pays qui soutient et qui entretient et qui permet à ce type de pratique, à cette culture raciste d'exclusion de se pérenniser. Et donc Trump, il surfe sur une vague qui existe déjà. Il n'est pas le créateur de la vague. Il faut aussi qu'on soit assez clair là-dessus. Et bon, selon les sondages, je disais la dernière fois, la semaine dernière, je crois, dans votre émission, quand même 59% des républicains pensent que la situation actuelle des Noirs n'a rien à voir avec l'esclavage. Ça déjà en soi, c'est pour ce porteur d'un racisme, d'une violence assez remarquable. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas penser que parce que quelqu'un est juste un républicain ou qu'il est juste un supporter de Donald Trump, il n'est pas quelque part une victime du racisme et il n'est pas un acteur au quotidien de la reproduction de ce racisme dans la société dans laquelle nous sommes. Ce n'est malheureusement pas aussi simple que cela.
Monsieur Diallo,
en faisant tomber des statues, des monuments, on choisit l'oubli. Est-ce qu'il faut oublier ou est-ce qu'il faut être en face de son passé tous les jours pour le comprendre ? Lorsqu'en Belgique, on dit d'enlever la statue de Léopold, est-ce que c'est la solution ou est-ce qu'il faudrait plutôt la garder là et mettre une très grande inscription pour dire « esclavagiste, meurtrier de tant de millions de Congolais » pour que toute personne qui passe là voit, oui, la statue, mais voit également le message attaché à cette statue. Je ne suis pas tellement pour l'oubli, je suis pour l'éducation des gens, pour qu'on sache exactement que l'histoire est là. Parce que s'il faut effacer l'histoire, mais donc il faudrait également changer tous les noms, tous les prénoms des gens aux États-Unis. Où est-ce qu'on s'arrête dans le fait d'effacer le passé ?
Le meurtre de George Floyd marque un tournant dans l'histoire des États-Unis pour avancer vers les droits équitables. Ornelek.
Oui, écoutez, moi je pense que oui. Je pense que les changements qui vont arriver, qui arrivent à même, sont très profonds. On a appris qu'une jeune fille juste de 22 ans, il y a quelques jours, a contacté le Merriam-Webster Dictionary, qui est un dictionnaire de la langue anglaise, lui demandant de changer la définition de racisme en y intégrant la dimension d'oppression systématique.
Monsieur Diallo.
Le meurtre de George a changé beaucoup de choses et c'est véritablement un tournant. Parce qu'avant, c'était de simples dénonciations. Mais cette fois-ci, c'est des mouvements même dans d'autres pays sur ce qui se passe dans ces pays. C'est donc une sorte de métastase.
Joël ?
Je suis tout à fait d'accord que pour comprendre et changer le présent, il faut confronter le passé. Ça, c'est très important. J'ai l'espoir que peut-être on arrivera à observer une déségrégation totale des États-Unis.
Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à vous tous pour votre contribution dans